Alors, ce matin, on va débuter. La semaine passée, j'ai terminé le livre de Jacques. Alors, et en septembre, on va regarder Marc. Donc, l'évangile de Marc, ou selon certains qui aiment mieux l'appellation l'évangile selon Marc, parce que c'est le livre de Marc, naturellement, c'est Marc qui écrit ce livre, mais ce n'est pas l'évangile propre de Marc. Et même Marc 1:1, alors Marc a bien pris soin de dire ceci, « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ ». Alors pour Marc, c'est très clair que son livre va parler de l'évangile de Jésus-Christ. Et là, il dit « Fils de Dieu ». Ça, c'est le verset 1. Maintenant, quelles questions vous viennent à l'esprit en lisant ce premier verset de l'évangile de Marc? Moi, il y en a quelques questions qui me sont venues à l'esprit, puis là, je suis en train de lire l'évangile. J'aime... dans ma préparation, avoir vraiment un survol de l'Évangile, d'essayer d'avoir une compréhension du livre dans son ensemble. Alors, à chaque fois que j'enseigne un livre, j'essaie de le lire plusieurs fois pour juste essayer de m'imbiber dans le livre et de voir une perspective aussi globale du livre. Alors, j'aime le lire même dans un trait, comme ça, en le lisant d'une frappe. Ça, il y a quelque chose qu'on obtient aussi que quand on lit juste par section, par petite section, chapitre par chapitre. Alors, aussi en passant sur le site justement de l'Église, on a mis, ou quelqu'un en tout cas a pensé mettre, j'ai vu ça cette semaine, j'étais très content, si vous aimeriez lire l'Évangile de Marc, eh bien il y a même un guide, un aide pour vous permettre de lire des portions, puis de justement passer à travers... l'Évangile de Marc en accédant au site de l'Église. Alors, moi, la première question qui m'est venue, c'est la suivante. Qu'est-ce au juste cet Évangile de Jésus-Christ? La personne de Jésus, moi, m'a toujours interpellé, même avant que je sois devenu chrétien. La première chose qui m'a touché, c'est quand j'ai ouvert la Bible pour la première fois. J'étais un jeune homme de 18 ans. Je pesais un petit peu moins. J'étais délicat comme garçon. 125 livres, c'est petit, hein? C'est pas tellement pesant. Mais je me rappelle que quand j'ai commencé, là j'ai ouvert l'Évangile de Matthieu. J'ai commencé avec Matthieu. Et puis là, naturellement, je suivais, on m'avait conseillé de faire une lecture comme ça suivie en commençant avec Matthieu. Et je me rappelle encore comme si c'était hier. Il faut que vous compreniez que quand j'ai commencé à lire la Bible, je fumais en même temps de la marijuana et du hash, ces choses-là, bon. Et donc, je consommais, j'ouvrais la Bible, et là, j'avais du plaisir. Hein? Alors, comme on dit en bon québécois, je tripais. Je tripais sur l'Évangile. Alors, j'avais du temps de libre, je finissais mon travail assez tôt dans la journée. Alors, une fois que j'avais toutes faites mes affaires, là, je ouvrais l'Évangile après avoir consommé ma dose quotidienne. Et là, j'ouvrais ça, puis là, j'ai commencé à lire ça pour le fun, ok, par curiosité, parce que bon, il m'en parlait là, quelqu'un, puis tout ça, tatata. Et là, j'ai commencé à voir qui était Jésus. Et c'est ça qui m'a frappé, moi. À partir de Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce qui me frappait, c'était Jésus. Ce qu'il disait. Comment il disait ce qu'il disait. Et j'aimais tellement ça quand il apostrophiait les hypocrites puis les pharisiens. Et ça me touchait tellement quand je le voyais s'intéresser à des gens que normalement les autres ne s'intéressaient pas à eux autres. Et moi, je disais, c'est lui, ça, Jésus. Oui, pour moi, Jésus, c'était le petit bébé dans la crèche à Noël, puis c'est à peu près ça, là, tu sais, que j'avais comme image de Jésus. Mais je n'avais pas une perspective tellement enrichie parce que je n'avais jamais lu la Bible. Mais ce que j'avais appris, c'est à travers la religion, ce que la religion m'avait enseigné. Mais moi, je n'avais aucun intérêt. Même si j'avais été servant de messe dans l'Église pendant mon enfance et tout ça, bon, jusqu'à l'adolescence, à peu près, là, au début. Je lis l'Évangile et Jésus m'interpelle. Il m'interpelle tellement qu'à un moment donné, j'arrête de consommer. Parce que là, il commence à se passer de quoi à l'intérieur de moi. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais Jésus m'interpellait. Je ne comprenais pas. Mais Jésus, sa personne, m'interpellait. Et c'est pour ça que l'équipe pastorale aussi, on avait à cœur, à partir de septembre, plein feu sur Jésus-Christ. Autrement dit, toute l'attention, que toute l'attention soit placée sur Jésus. On a besoin de redécouvrir l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que vous savez, ce qui fait la différence dans chacune de nos vies, c'est Jésus. C'est lui, la personne importante. Le reste, vous savez, vient ensuite. Moi, mon plus grand désir, c'est que vous entendiez sa voix. Pas la mienne. Que la mienne soit à son service, mais que vous entendiez la voix de Jésus. Et un peu plus, que vous goûtiez à lui. Que vous ayez cette relation avec lui, où vous goûtez à Jésus. Le reste, ça vient après. Vous savez, on peut avoir le reste, on peut perdre cette relation où on entend la voix de notre berger et on goûte à qui il est. Moi, ce qui a transformé ma vie, c'est quand Jésus m'a rencontré. Et ce qui continue à transformer ma vie, c'est quand Jésus me rencontre. Et Jésus a promis qu'il se ferait connaître à nous. Il a promis que ses brebis entendraient sa voix. Et j'espère qu'à travers l'Évangile, selon Marc, on puisse découvrir l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et que lui fasse son travail dans nos vies. Vous savez, le mot évangile veut dire tout simplement bonne nouvelle. Mais de quelle bonne nouvelle s'agit-il? Alors là, Marc 1, 14, 15 nous aide un petit peu. Il dit ceci. Après que Jean eut été livré, il parle de Jean-Baptiste, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait ceci. Alors là, ça nous aide un peu sur c'est quoi la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Mais regardez le contenu de ce que Jésus disait qui était cette bonne nouvelle de Dieu. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche? Alors, ce matin, je vais prendre le temps de regarder surtout cette première expression, le temps est accompli. Et en septembre, quand je vais revenir, là, je vais me concentrer un peu sur qu'est-ce qu'il veut dire par le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est proche. On va prier ensemble avant d'aller plus loin. Alors, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Sauveur, Seigneur Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, toi, Seigneur, qui es venu, tu es venu apporter cet évangile, tu es venu annoncer cette bonne nouvelle, tu es venu expliquer le contenu de cette bonne nouvelle, et tu l'as vécu à travers ta vie. Tu as été toi-même le message, tu as été toi-même le contenu de cette bonne nouvelle. Ô Seigneur Jésus, par ton esprit, parce que c'est seulement par ton esprit que notre esprit peut être éclairé sur qui tu es, pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es venu accomplir, et qu'est-ce que tu veux faire maintenant dans nos vies. Ô Jésus, fais-nous grâce d'ouvrir nos yeux, les yeux de nos cœurs, que par ton esprit, Jésus, tu puisses nous rencontrer. Et qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui change parce que tu nous as rencontrés. Que l'Évangile, Jésus, c'est à propos de toi. Ce n'est pas de moi qu'il est question. Mais l'Évangile, c'est toi. C'est ce que toi tu as fait. C'est ce que toi tu es. C'est ce que toi tu veux faire. C'est ce que toi tu es capable de faire si tu es présent dans la vie de chacun de nous, et que tu as la liberté d'être et de faire tout ce que tu veux être et faire. Ô Jésus, ouvre les yeux de notre intelligence. Rapproche-nous de toi, Seigneur Jésus, pour que nous goûtions davantage à qui tu es, et que nos vies en soient transformées. Ma prière est dans ton nom, Jésus, pour ta gloire. Amen. Alors, le temps est accompli. Ma compréhension, je vous la donne ici. Quand Jésus dit « le temps est accompli », ce qu'il est en train d'expliquer, c'est essentiellement ceci. Le temps établi par Dieu pour apporter un changement profond dans le monde est venu. Alors, le temps établi par Dieu pour apporter un changement profond dans le monde est arrivé. Dieu a décidé d'introduire, à travers Jésus, une nouvelle ère dans sa façon d'interagir avec les hommes. Cette nouvelle ère sera nettement plus favorable aux hommes. Le temps est venu pour Dieu de changer les choses avec la venue de Jésus. Et ça va être un temps plus favorable. Ça va être une nouvelle ère, quelque chose de nouveau. Donc, il y avait l'Ancien Alliance ou l'Ancien Testament, et il va y avoir la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, et il y a un changement important entre les deux. Et Dieu va le faire. Dans Galates 4, 4 à 9, Paul va expliquer qu'est-ce que c'est cette nouvelle ère. Écoutez bien ces versets. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec votre Bible. Galates chapitre 4, les versets 4 à 9. Mais je pense ici, Paul arrive à cerner quand même assez bien dans quelques versets qu'est-ce que c'est ça, cette nouvelle ère, ou cette nouvelle période, le fait que les temps sont accomplis. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Alors, Galates 4, versets 4 à 9. Donc, Paul dit ceci, « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, c'est-à-dire né sous l'ancienne ère, sous l'ancienne alliance, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, sous l'ancienne alliance, sous le bon vieux temps, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Papa, Papa, Abba hein? », qui est vraiment le terme chaleureux que nous on emploierait pour dire « Papa » au lieu de « Père », mais il y a aussi « Papa » qui est un terme où il y a cette relation d'amour, d'intimité, de chaleur entre le Père et son Fils. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous serviez même des dieux qui, par nature, ne le sont même pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé selon Paul une fois que les temps furent accomplis? Et comme Marc nous le dit dans le verset 1 du chapitre 1, ce qui est arrivé, c'est simplement ceci. Quand le temps est venu, quand Dieu a dit « OK, c'en est assez, je vais apporter un changement significatif sur la terre dans la façon que j'interagis avec les hommes. Et ce nouveau temps-là va être beaucoup plus favorable. » Et voici, maintenant, Dieu a envoyé son Fils. Voyez? C'est ça qui s'est passé. Dieu a envoyé son Fils. Selon Paul, ce qui était plus favorable depuis que Dieu a envoyé son Fils, dans sa façon d'interagir avec les hommes, et là je vais vous décrire ce que Paul est en train de dire dans les versets qu'on vient de lire. Ce qui est plus favorable, c'est ceci. Dieu a racheté ceux qui étaient sous la loi. OK? Ce qui est plus favorable, c'est que Dieu les a adoptés et il a fait d'eux ses fils. Ce qui est plus favorable, c'est que Dieu a envoyé dans leur cœur l'esprit de son Fils pour qu'ils soient capables de dire « Papa ». À Dieu, à ce Dieu grand, majestueux, saint, pour être capable de se tourner vers Dieu puis de dire à Dieu, Papa, t'es mon papa. Je peux m'approcher de toi en tant que mon papa. C'est extraordinaire. Et ici, ce qu'il dit aussi, ce qui est plus favorable, c'est que Dieu les a retirés du marché aux esclaves. Et les emmener dans sa famille en tant que fils adopté. Imaginez-vous. Extraordinaire. Dieu nous a retirés d'une situation lamentable, misérable, et maintenant il nous a invités dans sa maison et il a fait de nous des fils. Et non seulement ça, mais ce que ça voulait dire ou ce que ça impliquait, c'est que Dieu les a inscrits sur son testament en tant qu'héritier, en tant que ses héritiers, récipients de sa grâce et de son amour. Dieu les a invités en sa présence pour qu'ils le connaissent intimement et surtout qu'ils soient connus intimement de lui. Imaginez-vous, lui, le Dieu de l'univers. Dieu les a sortis de leur aliénation par rapport à Dieu, par rapport à lui, et de leur idolâtrie qui ne faisait que leur faire du tort et courir après du vent. Au lieu de servir des dieux qui n'existent pas, maintenant, ils peuvent servir le Dieu vivant et vrai. C'est pas extraordinaire? Ça, c'est la nouvelle ère dans laquelle Jésus a introduit son évangile. J'aimerais vous lire le texte d'une dame qui a écrit un livre et qui s'appelle Birdie. Son nom, c'est son surnom, c'est Birdie. Et elle a écrit ceci. J'essaie de tourner un petit peu. OK, il est recto verso. Ah, voilà, OK. Et là, je vais vous lire son texte pour vous aider aussi à comprendre qu'est-ce que Jésus a fait justement pour chacun de nous si vous l'avez naturellement reçu comme votre sauveur personnel et qui fait partie de cette nouvelle ère de l'Évangile de Jésus-Christ. Elle a intitulé ça « Le marché aux esclaves ». Nous sommes au jour du marché aux esclaves. Les esclaves sont traînés par leurs chaînes et laissés à la vue pour être examinés par des acheteurs. Les enchères commencent et les esclaves se vendent de part et d'autre. Il y a des esclaves qui ont beaucoup de vigueur. Certains sont fiers et peuvent encore se tenir bien droits. D'autres sont jeunes et ont encore plusieurs années de service à donner à leur maître. Ils sont vite choisis par les propriétaires d'esclaves. Finalement, tous les yeux se rivent sur le dernier esclave encore à vendre. Tous en ont le souffle coupé. Puis des rires suivent pendant qu'un enchérisseur ouvre les mises. Frêle, faible, fatigué, n'ayant plus d'amour propre, abandonné à des sentiments d'inutilité et d'impuissance, qui pourrait bien vouloir de quelqu'un comme moi? Parmi la foule de propriétaires d'esclaves, on entend crier la mise minimale requise par la loi. À nouveau, on entend des rires. Je n'ai plus assez de force pour me préoccuper de qui m'achète cette fois-ci. Je suis vidé par des années de servitude à d'autres maîtres. Et puis, l'improbable est arrivé. Parmi la foule, quelqu'un dit avec autorité, mais d'une voix douce et chaleureuse, « Je choisis celle-ci pour qu'elle m'appartienne, et j'en paierai le prix le plus élevé. » Dans la foule, plusieurs se moquent du prix qu'on paie pour moi. Ils quittent l'encan, dégoûtés qu'on m'ait acheté à un tel prix. Je comprends leur moquerie et leur dérision, puisque je suis tellement anéanti que j'en aurais fait autant. Qu'est-ce que ce maître veut bien faire de moi? Puis j'entends à nouveau sa voix, sauf que maintenant il parle juste à mes côtés. Je regarde, pendant que le vendeur d'esclaves lui remet la clé de mes chaînes et que mon nouveau maître les déverrouille. Il enlève les chaînes qui m'entourent, met un vêtement léger sur mes épaules et me remet sur pied. Il me dit, « Lève-toi, mon enfant. » Appuie-toi sur moi et partons d'ici. Rendons-nous à la maison. Je suis abasourdi. Toutes mes années d'esclavage me rendent confuse et j'ai peine à croire ce qui m'arrive. Je n'ose pas faire confiance à cette bonté et cette gentillesse qui exprime mon nouveau maître. Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce qu'on essaie de me tromper? Est-ce que tout cela est réel ou est-ce que j'ai perdu la raison? M'a-t-il bien appelé son enfant? Est-ce que je dois marcher à ses côtés? Il m'emmène chez lui et commence à me servir. Il me donne du lait à boire, car je ne suis pas assez forte pour manger de la viande. Au fur et à mesure que je reprends des forces, il ajoute du pain à mon menu. Il répond à tous mes besoins. Et me parle chaque jour, me disant que je ne suis plus esclave de mon ancien maître, que mon ancienne façon de vivre est terminée. Je suis maintenant son enfant, légalement. Il a fait de moi sa fille. Je partagerai et hériterai de tout ce qui est à lui. Je ne peux pas comprendre tout ce qui maintenant est mien. Dans mon ancienne vie, je travaillais dur jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je servais des maîtres qui n'étaient jamais satisfaits, qui voulaient la perfection. Je faisais tout pour leur plaire, mais je ne pouvais jamais y arriver. Rien ne les satisfaisait. Il manquait toujours quelque chose à mon travail, qui se terminait par un échec de toute façon. J'allais voir mes anciens maîtres, j'écoutais attentivement ce qu'ils me disaient de faire et comment le faire. Je passais des jours à me préparer. J'avais toute la connaissance, mais quelque chose me manquait, puisqu'à la fin, j'échouais. Un jour, pendant que je marche dans le jardin et que je parle avec mon père, c'est exact, je suis réellement devenu son enfant et non pas une esclave. Il m'écoute et je lui parle de mon ancienne vie. Je lui demande ce qui me manquait à l'époque. Je l'écoute me parler d'amour. Mon cœur est émerveillé par ce qu'il me dit. Je commence à comprendre le prix élevé qu'il a payé pour ma vie. À cause de son amour pour moi, je suis renouvelé jour après jour. Mes blessures sont en train d'être purifiées et la guérison commence à restaurer mon âme. Ma vie est tellement remplie de son amour. Un jour, je lui demande, « Comment est-ce que je peux te payer pour cet amour? » Il me répond, « Je t'ai aimé sans compter. Mon amour est un cadeau. Tu ne peux pas me payer. » Je m'écrie, « Mais ma vie est tellement remplie de ton amour que je peux faire quelque chose pour te montrer à quel point je t'aime. » Mon père me prend par la main, me regarde dans les yeux et me dit, t'avoir à mes côtés, savoir que tu es libéré de l'esclavage, que tu reprends des forces, que tu es guéri, que tu ris, que tu es en paix et épanoui, que nous sommes connectés, que tu sais que je t'aime, que jamais je ne t'abandonnerai et ne te répudierai. C'est ce que j'ai toujours voulu pour toi. C'est ça qui compte pour moi. Des mois s'écoulent et ma guérison se poursuit. Un jour, mon père vient me voir et me dit, « Je retourne au marché aux esclaves aujourd'hui et j'aimerais que tu m'accompagnes. » Au début, j'ai peur de retourner à cet endroit dont je me souviens. Mais maintenant, j'y retourne, non pas comme esclave, mais comme l'enfant d'une personne libre. J'observe pendant que mon père rend la liberté à une autre esclave. Et nous l'emmenons ensemble à la maison. J'assiste mon père pendant qu'il prend soin de sa faible enfant tous les jours. Ensemble, nous lui donnons du lait, puis du pain, et par la suite de la viande. Puisque mon père m'a aimé, je peux moi aussi aimer cet enfant de la même façon. J'en suis venu à mieux comprendre à quel point mon père est merveilleux. Et je peux voir que la délivrance que j'ai reçue n'a pas de fin. Mes besoins, ainsi que ceux des autres, seront toujours comblés. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'esclaves que mon père a très envie de délivrer. Moi aussi, dans le fond de mon cœur, j'aspire maintenant à les voir délivrés, afin qu'ils connaissent et qu'ils aient une relation libre et remplie d'amour. Autrefois, j'étais un esclave dans un état de servitude et de crainte. Mais maintenant, je suis libre avec un cœur qui aime. Ce que j'ai reçu moi-même me permettra d'apporter le message de délivrance et d'amour au marché, aux esclaves, et d'en diriger vers la maison de mon père. Signé Birdie. Quelle belle façon d'exprimer ce que Marc nous dit et ce que Paul nous dit sur l'Évangile de Jésus-Christ. On peut regarder aussi Matthieu 1, 28 qui nous donne qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle. Ici, c'est l'ange qui s'adressait à Joseph et lui dit, c'est lui qui sauvera, en parlant de Jésus, son peuple de ses péchés. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Luc 2, 10 et 11, l'ange dit au berger, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, 30 et 32, c'est le prophète Siméon. Lorsqu'il a vu Jésus qui était un nouveau-né, il dit ceci, « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » La bonne nouvelle. Luc 4, 18, 19, 21, c'est Jésus lui-même ici qui, commençant son ministère, se rend dans la synagogue, ouvre le livre d'Ésaïe et lit ceci. Et je pense que c'est un des plus beaux textes qui nous montre justement qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus dit ceci en lisant dans le livre d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, aux esclaves, la délivrance. » Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, dans le verset 21, il a fermé le livre, il est allé s'asseoir, il a dit, « Alors, il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. » Jésus est la bonne nouvelle. Ah, 1.21, merci beaucoup de la correction. Matthieu 1.21. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? À travers tous les versets, j'ai résumé par cette phrase. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour relationner avec nous en tant que Fils. Donc, Dieu veut une relation avec nous en tant que fils. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ici, j'aimerais partager ce que l'auteur bien connu et pasteur, M. John Piper, et j'ai déjà apporté ces éléments-là, j'aimerais juste les rappeler rapidement, sur ce que, selon lui, constitue ce qu'il appelle la totalité de l'Évangile. Parce que présentement, l'Évangile peut être pris par bride. Il y en a qui mettent l'emphase sur un aspect, sur un autre. Et lui, il a dit, bien, voici, selon moi, en lisant les Écritures, ce qu'il considérait comme étant la totalité de l'Évangile. Et j'aime bien la manière dont il pointe à travers chacun de ces éléments-là, et surtout vers le sixième élément qui se trouve être un élément vraiment qui souvent est négligé. Mais le premier, il va dire, premièrement, l'Évangile, c'est un plan. Un plan que Dieu avait avant la fondation du monde. Donc, ça, c'est un point de vue biblique sur quand on regarde les Écritures. C'est vrai que dès les débuts, Dieu avait déjà prévu l'Évangile. Donc, il y a un plan. Il y a aussi que l'Évangile, c'est un événement. Et un événement, c'est que la mort et la résurrection de Jésus-Christ est venue apporter ce changement, cette nouvelle ère-là. C'est cet événement-là qui a inauguré, dans un sens, quelle était la nouvelle ère que Dieu allait maintenant établir à travers son Fils Jésus-Christ. Alors, lui, il est mort, lui juste, pour des injustes. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Jésus n'est pas mort pour ceux qui n'en avaient pas besoin. Jésus est mort pour ceux qui en avaient besoin, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment des pécheurs notoires, même comme ça dit dans Luc 15. Il aimait les pécheurs notoires, les pécheurs de réputation, parce que c'est vers eux que aussi Dieu savait très bien que la bonne nouvelle aurait un impact incroyable. Troisième chose, c'est que c'est aussi un accomplissement. Alors, l'événement que Jésus a accompli à la croix est un accomplissement pour le rachat des péchés qui incluait le fait qu'il pouvait être justifié, c'est-à-dire considéré comme étant sans péché. Ça, c'est tout à fait révolutionnaire comme bonne nouvelle. C'est-à-dire que quelqu'un peut être considéré comme n'ayant jamais péché. Il est justifié devant Dieu, légalement adopté comme fils et juste, n'ayant aucun péché en sa présence à cause du sacrifice que Jésus a réalisé. Et ça, c'est un événement qui est historique. C'est pas juste une histoire, un conte de fées, mais historiquement, cet événement-là s'est accompli. Donc, un plan, un événement, un accomplissement. Et l'Évangile aussi, c'est une offre qui est gratuite. Donc, on ne peut pas acheter l'Évangile, on ne peut pas mériter le salut, c'est une offre qui est gratuite. Alors, si ce n'est pas gratuit, c'est qu'il n'y a plus d'Évangile. Si je dois payer pour accéder à Dieu ou faire quelque chose en conséquence pour mériter l'Évangile, ce n'est plus l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est gratuit, c'est le fondement même de l'offre que Dieu nous fait. Elle est gratuite, on ne peut pas rien faire en retour pour mériter son amour. Alors, si c'est par les œuvres, au lieu d'être par la foi, bien, il n'y a plus d'Évangile non plus. Alors, ça, c'est un élément important aussi. Le cinquième, pour que l'Évangile puisse être vrai, il faut qu'elle ait une application personnelle au cœur de chacun d'entre nous. Autrement dit, il faut que je reçoive l'Évangile. C'est important, parce que sinon, je ne peux pas être pardonné de mes péchés. Je ne peux pas recevoir la justification qui m'est promise. Et habituellement, ça fait partie pas mal des éléments essentiels de l'Évangile. On arrête à une application personnelle. Là, on dit, si tu le reçois, tu reçois l'Évangile, tu invites Jésus dans ta vie, et là, il vient dans ta vie, il purifie ton cœur de tes péchés, maintenant tu es sauvé. Tu as reçu le salut de Dieu. Et là, on dit, OK. Et là, c'est là que M. Piper vient et il dit, bien, il y a un sixième élément, et un élément qu'on oublie souvent, pour qu'on puisse dire, voici la totalité de l'Évangile. Il ne manque rien, là, avec ce sixième élément-là. Si ces six éléments-là sont là, ça, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Quel est ce sixième élément? Y en a-tu qui s'en souviennent? Hein? La repentance? Non, ça ferait partie de l'application personnelle ici. Okay, repentance et la foi feraient partie ici de l'application personnelle. Il faut pour l'appliquer. Hein? Mais ça fait partie de l'application personnelle. Partager? Le partager à d'autres? OK. C'est pas celui qui amène, en tout cas. Ça pourrait être intéressant. Alors, je vous ferai pas languir plus longtemps, mais 1 Pierre 3,18 nous amène cet élément. Il dit, dans 1 Pierre 3,18, Pierre, c'est lui qui parle ici, il dit, « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, étant mort en la chair, mais vivifié par l'Esprit. » Et là, le point que M. Piper fait, là, vous dites, ben oui, c'est sûr, il y a un seul chemin. Mais il y a un seul chemin pour nous emmener à Dieu. Et si le point qu'on oublie, c'est ceci, c'est que quand Jésus nous rachète de nos péchés, la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait nous emmener à Dieu. Il voulait nous emmener à avoir une relation avec Dieu. Dieu est notre trésor. Dieu est la finalité de toute chose. Mon pardon, c'est pas le but de l'Évangile. C'est pas le but ultime de l'Évangile, que je sois pardonné. Ma justification, que je sois rendu juste comme étant, si je n'avais jamais péché, j'ai un vêtement de justice que Dieu m'a donné, c'est pas le but ultime de l'Évangile. Ma place au ciel, que j'ai une place garantie auprès du Père dans le ciel, ce n'est pas le but ultime de l'Évangile. mon acquisition d'un corps glorieux, transformé, qui ne sera plus jamais malade ou infirme, qui va être 6 pieds 5, puis les caractéristiques que vous voudrez, qui va dire, enfin j'ai un corps que j'ai toujours voulu avoir. Ce n'est pas le but ultime de l'Évangile. Comprenez? De ce que Jésus a fait à la croix. M. Piper dit ceci, « Ces choses, mon pardon, ma justification, ma place au ciel, mon super corps glorieux, ne sont que des moyens pour arriver à quelque chose. Des moyens pour arriver à quoi? » Et ça, c'est la poursuite, la passion de Dieu. C'est ce qu'il recherche le plus pour chacun de nous. M. Piper dit ceci, tout ça, c'est pour qu'on puisse le voir, lui. Qu'on puisse le connaître, lui. Qu'on puisse l'aimer, lui. Qu'on puisse être pleinement satisfait en lui. Et pour qu'il soit encore plus glorifié, étant donné que je peux maintenant être éternellement satisfait en lui. Autrement dit, l'Évangile, c'est pour nous emmener à goûter à comment Dieu est bon. On ne peut pas y arriver sans l'Évangile. L'Évangile, ce qu'elle veut faire pour vous et moi, l'Évangile de Jésus-Christ, c'est qu'elle m'emmène à savourer, à me délecter de la personne de Dieu. Que je suis prêt à laisser n'importe quoi d'autre de côté, prêt à donner ma vie, que mon intérêt ce soit pas de bâtir ma réputation et ma carrière ou quoi que ce soit d'autre, mais que mon désir ultime c'est de dire « J'aime Dieu, je ne peux pas me passer de Dieu, j'aime être en relation intime avec lui. » Mon âme a soif de lui. Et mon âme ne trouve que la paix en lui. Ça, c'est ce que est la totalité de l'Évangile. Si vous êtes venu à Jésus et que vous avez arrêté à cet aspect de dire « Ah, mes péchés sont pardonnés, j'ai une place au ciel, je suis justifié, je vais avoir un corps nouveau », mais que dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne, vous ne goûtez pas à qui est Jésus et que vous n'avez pas cette relation d'amour et de cœur avec lui. Un jour, vous allez l'avoir dans l'éternité, c'est sûr. Mais Dieu veut aussi que vous l'ayez maintenant. Que ça goûte bon. Comprenez? Que ce que vous vivez là, vous vivez Dieu au quotidien. Votre cœur touche au cœur de Dieu, tellement que vous êtes proche. Vous entendez sa voix. Vous ressentez son amour. Vous pleurez parce que tout à coup, vous goûtez à qui est Jésus. Et là, vous allez auprès de lui parce que vous ne pouvez pas vous faire autrement. C'est pas une discipline de vie, c'est un style de vie. Vous voyez? Parce que vous êtes en amour. Quand on est en amour, qu'est-ce qui se passe? La distance, il n'y en a plus. Les obstacles, waouh, c'est des occasions pour montrer mon amour. Hein? Le coût, il n'y en a pas. Il n'est pas assez élevé. Oui, parce que je suis en amour. Ça, c'est la totalité de l'Évangile. Qu'on puisse avoir une relation d'amour avec Dieu. Et tant mieux si on commence déjà. Jésus dit, il y a une seule réponse légitime à l'Évangile. C'est quoi? Une seule réponse qui était dans l'esprit de Jésus. Quand il a commencé à annoncer l'Évangile, il a dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Qu'est-ce qu'il a dit? « Repentez-vous et croyez. » La seule réponse de Jésus, c'est de se repentir et de croire. La repentance, c'est simple, c'est le fait que je vais me détourner de tout ce qui m'empêche d'avoir une relation avec Dieu. Je vais dédaigner tout le reste. Je vais mettre de côté tout ce qui pourrait être l'obstacle, que ce soit des idoles, que ce soit une carrière, que ce soit l'argent, que ce soit la réputation, peu importe c'est quoi. C'est comme toutes ces choses-là, ça n'a plus d'importance. Moi, donne-moi Jésus. Tu veux avoir le reste, prends-le le reste. Un peu comme Pierre qui a dit, j'ai tout laissé, Seigneur. On a tout laissé, en fait. Il a parlé pour tout le monde. Il dit, nous avons tous laissé pour te suivre. À qui tu veux qu'on aille? Nous autres, on n'a pas d'option, là. On n'a pas d'autre personne. Jésus, c'est toi. On sait qui tu es. On te veut, on t'aime, on te suit. T'es tout pour nous. Il n'y a rien de plus important pour nous. Notre cœur, là, autrement dit, a fait son choix. Et tu es notre choix. T'es le choix de mon cœur. Seigneur, je veux te suivre. C'est toi qu'on veut suivre. C'est toi qu'on aime. Ça, c'est la repentance, de délaisser tout le reste. Il y a 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10 qui dit ceci, « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Vous savez, une telle repentance, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur d'une personne. Il y a juste Dieu qui peut emmener nos cœurs à avoir une telle repentance où on se détache de tout ce qui peut nuire, de tout ce qui déplaît à Dieu, puis on dit, « Seigneur, je te laisse tout et je remets ça entre tes mains. » Même Actes 1, 11, 18 dit ceci, « Ce récit, les apaisant en parlant de comment Dieu avait visité les non-juifs, et ils louèrent Dieu et dirent, « Dieu a aussi accordé aux non-juifs la repentance. » Dieu a aussi accordé. Alors pour eux, c'était clair. C'est l'œuvre de Dieu. Lorsque quelqu'un se repent de cette sorte de repentance, c'est l'œuvre de Dieu que Dieu a accordé à une personne. Et la foi, eh bien la foi, c'est simple. La foi, c'est plus qu'une adhésion mentale, comme on a vu avec Jacques, ou une déclaration verbale de certaines vérités fondamentales, c'est d'avoir goûté à Dieu. Ça, c'est la foi. La foi goûte à Dieu, goûte à qui est Dieu, à qui est Jésus. C'est d'avoir aimé cela et de plus être capable de vouloir s'en passer. Vous voyez? Ça, c'est la foi. Où là, je place ma confiance en celui qui est l'objet de mon amour, parce que j'ai découvert la personne la plus fantastique, formidable. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ, c'est mon Sauveur. Une telle foi aussi, elle est surnaturelle et le fruit de la grâce que Dieu produit dans le cœur d'une personne. Tout comme la repentance, c'est Dieu qui intervient. La foi, c'est aussi Dieu qui intervient. Éphésiens 2, 8 dit ceci, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Maintenant, pour vous, ma question ce matin, c'est simplement ceci. Avez-vous entendu l'Évangile de Jésus-Christ? Est-ce que votre cœur est attiré à lui? Vous êtes-vous réellement détourné du péché pour vous tourner vers celui qui est la source de la vie, Jésus-Christ? Avez-vous une relation cœur à cœur avec lui en tant que fils? Lui avez-vous donné toute la place dans votre vie? Eh bien, c'est l'invitation que Marc nous adresse à travers son évangile. Prions ensemble. Seigneur Jésus, si toi tu ne viens pas à notre secours, si toi tu ne viens pas vers nous, Seigneur, si toi tu ne viens pas à ce marché aux esclaves,
pour nous chercher là, parmi les autres. Et si tu ne viens pas nous racheter, Seigneur, nous, on n'a pas la force en nous-mêmes. On n'a rien en nous-mêmes pour nous emmener vers toi et pour nous emmener, Seigneur, à te suivre. Seigneur, si c'est vrai au moment de notre salut, c'est tout aussi vrai dans la suite de notre salut, dans notre marche avec toi. Ô Seigneur, ce que tu désires le plus de chacun de nous, c'est qu'on puisse avoir cette relation d'amour en tant que fils vis-à-vis son Père. Seigneur, certains d'entre nous, on n'a pas connu une telle relation d'amour entre père et fils ou père et fille. Et Seigneur, c'est un peu étrange à notre pensée que de pouvoir croire que tu pourrais nous aimer à ce point où on pourrait être aussi proche de toi au niveau de notre cœur et de sentir dans notre cœur que tu nous aimes et qu'on est précieux à tes yeux, qu'on est spécial pour toi, que tu veux passer du temps avec nous, tu veux nous connaître et tu veux te laisser connaître, Seigneur, par nous. Ô Seigneur Jésus, est-ce que tu peux nous aider à travers cet évangile, ce livre de Marc, nous aider à te redécouvrir, toi, Seigneur Jésus, et à voir comment toi, tu nous as tellement à cœur, comment toi, Seigneur, justement, tu veux venir vers nous, comment toi, tu peux toucher nos vies, comment toi, tu peux nous libérer, Seigneur, de tout ce qui nous empêche de goûter à ton amour. Ô Seigneur, est-ce que je peux te faire cette prière ce matin? Peux-tu nous visiter d'une manière spéciale cette année? Peux-tu retourner nos yeux sur ta personne et nous apprendre à te redécouvrir tel que tu es toi et pas tel qu'on a pu te dépeindre ou qu'on a pu croire que tu étais ou qu'on est venu à croire? Est-ce que ton esprit, Seigneur, peut nous aider à te redécouvrir et apprendre à t'aimer et à se laisser être aimé par toi, Jésus. C'est ma prière ce matin. Peux-tu encourager ceux et celles qui sont ici ce matin puis qui réalisent peut-être ce matin qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur relation avec toi? Ô Seigneur, peux-tu venir vers eux? Tu veux venir toucher leur cœur, Seigneur, les inviter à s'approcher de toi. Fais-nous entendre ta voix, Jésus. Fais-nous goûter à ton amour, à qui tu es. En ton nom, pour ta gloire. Amen.